Bienvenue sur Radio Galère 88.4. Vous êtes dans l'émission Kixa. Et aujourd'hui, on fait une émission spéciale pour... Pardon. Excusez-moi. Donc, bienvenue dans Radio Galère. Vous êtes sur l'émission Kixa. Et aujourd'hui, on fait une émission spéciale pour le vernissage qui s'appelle Mirage, qui aura lieu le 23 mai, donc la semaine prochaine, à la mûrisserie, et qui est organisée par la sucrerie, et qui est donc le vernissage de l'artiste Manclois, qui est avec nous dans les studios. Bonjour Manclois, comment vas-tu?
Salut, ça va, très bien.
Avec nous, on a aussi Nancy, qui représente la sucrerie et l'organisatrice, du coup, de cet événement. Salut Nancy.
Salut.
Et puis, on a la joie également d'avoir avec nous Nola, du groupe de Troublemakers.
Bonjour.
Qui nous fera une prestation aussi à vendredi prochain. Est-ce que Nancy, tu pourrais nous présenter un petit peu cet événement, s'il te plaît?
Mirage, c'est un événement qui va être immersif, c'est l'occasion pour Manclois, ça fait 10 ans qu'il a rien fait sur Marseille, de revivre un événement entouré de ses amis, de tous ses partenaires pour un moment unique.
Manclois, j'aimerais bien qu'on démarre cette émission en présentant un petit sample qui est issu de la musique Get Misunderstood des Troublemakers, et on en parle juste après. C'est parti.
Ça, je fais des t-shirts et des...
Hop là, pardon.
C'est le buzz là qui...
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas « Nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution ». Ils disaient « Toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable ». On fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'ils n'avaient pas faite, et qu'ils n'auraient pas faite, ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'ils la voulaient. Je vois quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37. Glorious
Passer,
j'en ai
plus rien.
Si, vous avez
raison.
Parce qu'il y aura toujours des fous.
On est de retour. Je fais exprès de mettre que le début de ce morceau. Manclois, est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu as rencontré ce morceau, s'il te plaît?
Ouais, alors c'est vrai qu'il y a une petite anecdote qui est marrante sur ce morceau. Donc moi, ça fait partie des sons que j'écoutais beaucoup au début des années 2000 avec des potes, et j'aimais beaucoup ce texte. Il m'a beaucoup inspiré, on va dire plutôt dans une manière personnel. Et quelques années plus tard, j'avais ce texte en tête et je le cherchais, et j'ai cherché et je ne retrouvais pas ce texte qui m'a beaucoup énervé. Et je demandais à tous les potes de l'époque, c'était quoi ce texte là qui parlait de ça, etc. Impossible de le retrouver. Un certain nombre d'années plus tard, je me retrouve donc à faire une fresque à Marseille pour le MoMA, qui fait d'ailleurs ce soir un vernissage à la Friche, à la salle des machines, voilà, dont Nola fait partie en tant que photographe là. Et donc je fais une fresque pour le MoMA, et Aurélie, qui gère le MoMA, m'a dit, il y a un ami à moi qui est photographe qui va venir. Donc je me retrouve sur le toit, on faisait ça sur des cordes avec des cordiches, je me retrouve, ça fait 48 heures que je suis sur le toit et sur le mur à peindre, et il y a un gars qui est là, qui dit rien, qui prend des photos, il monte dans l'ascenseur avec moi, l'appareil photo est contre moi, il prend des photos et tout ça. Et je sais pas qui est ce mec, et au bout de 2 jours on ne s'est pas trop parlé, donc je vais le voir, je dis bon bah alors en fait t'es qui, tu viens d'où, etc. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, j'étais musicien. Ouais, t'as fait quoi? Ouais, j'étais aux États-Unis, j'étais chez Blue Note. Puis là je regarde, je fais t'es qui en fait? Et il me dit ouais bah j'avais un groupe, les Troublemakers. Puis je fais non mais c'est pas possible. Et j'ai halluciné de me retrouver là avec lui. Et du coup, on réécoute des sons et je retombe sur ce son que je cherche depuis des années. Donc voilà, ça a bouclé une petite boucle.
Alors, Nora,
et je connais donc la source forcément de...
Voilà, exactement la question que j'allais te poser. Ouais, c'est, ouais. Quel est ce texte?
Alors, le texte, c'est extrait d'un film de Philippe Garrel qui s'appelle La naissance de l'amour.
Ok.
Voilà, avec Jean-Pierre Léo. Mais... c'est pas, voilà, tout le monde ne sait pas forcément, parce que souvent on m'a demandé si c'était un film de Godard ou de la Nouvelle Vague, en fait, non.
Okay.
Parce que Philippe Garrel, c'était un peu après la Nouvelle Vague. Mais
et alors, Manclois, qu'est-ce que ça t'évoque, justement, ce qui se dit dans ce texte-là?
Qu'est-ce que ça m'évoque?
Pourquoi ça te touche,
ça m'évoque, moi, des choses sur lesquelles je travaille, comme je travaille beaucoup sur donc nos contemporains, dans la plupart de mes travaux, je parle de gens qui sont contemporains et qui se retrouvent de gré ou de force à devoir entrer en résilience par rapport à des violences qu'ils peuvent subir, qui peuvent être le patriarcat, qui peuvent être des répressions de gouvernement, certains méfaits du capitalisme, ce genre de choses. Donc il y a des gens qui se retrouvent dans des situations de racisme, de LGBT-phobie, etc., et qui que moi je mets en avant dans les portraits que je peins. Et donc dans ce texte, il y a quand même l'idée que on est contraint et forcé à des moments de réagir à notre environnement.
Tu peux me parler un peu plus des portraits, parce que c'est vrai que tu fais beaucoup de portraits dans le sens graphique, mais aussi des personnes qui t'ont plus marqué dans les œuvres que t'as faites.
Par exemple, j'ai fait le portrait d'un couple de jeunes filles. Elles se sont rencontrées à Londres lors de leurs études, et après elles habitaient en Espagne. Il y en a une qui est espagnole, l'autre qui était née en Égypte. Et puis celle qui est née en Égypte, les parents avaient déménagé à Dubaï, et un jour elle leur annonce qu'elle est avec une autre fille, et donc la mère ne supporte pas trop ça, le père non plus, et il leur raconte une histoire quelques temps plus tard, comme quoi sa propre grand-mère est malade. Donc les deux filles partent à Dubaï, où à Dubaï c'est quand même passible de la peine de mort, l'homosexualité, et donc elles arrivent à Dubaï, la grand-mère va bien. Et en fait, le père prend les papiers des filles, ça s'engueule, etc. Et la nuit, elle réussit à piquer les papiers et elle s'enfuit via l'Arménie. Le père prévient les forces de l'ordre, elle passe par la Turquie, elles sont arrêtées, elles sont mises en prison. Et y en a une qui est espagnole, donc le consulat d'Espagne les fait rapatrier en Espagne. Et c'était un peu... et elles ont fait la une de la presse en Espagne, des magazines gays et autres. Parce qu'elles voulaient raconter cette histoire. Et y a une énergie de vivre là-dedans. Puis c'est un peu le Roméo et Juliette des temps modernes, cette histoire. Donc je l'aime beaucoup.
Tu parles de... Quand on a préparé l'interview, tu m'as dit, moi, je parle de gens qui ont cette énergie de changer le monde. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des gens que tu as rencontrés par ton travail, par tes œuvres, qui t'ont fait changer à toi?
Beaucoup, d'un point de vue humain en tout cas, ne serait-ce que là je suis assis à côté de Nancy, ça fait 6 mois qu'on bosse sur le projet de la semaine prochaine à la mûrisserie. On a eu plein d'échanges humains sur nous, notre façon de travailler, de communiquer, de parler avec les gens qui nous entourent, de voir réagir à tout un tas de situations, parce qu'organiser un événement comme ça, en fait, c'est beaucoup de taf.
Ouais.
Et ne serait-ce que ça, humainement, j'apprends des choses aussi. C'est pas forcément avec des gens qui se retrouvent dans des grands combats. Des fois, Nancy, elle est pleine d'énergie.
Elle est pleine de cette énergie-là. Peut-être qu'un jour, on trouvera le portrait gigantesque de Nancy sur la corniche, qui sait.
Ça, c'est une très très bonne idée.
J'aime bien aussi ton style graphique, parce qu'il y a comme quelque chose de... En fait, c'est très comme un fil.
Ouais.
On dirait qu'il y a un peu cette idée de fil de la vie, quoi, qui se transforme en...
Il y a une idée comme ça.
En visage. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, de ton style?
En fait, ça rejoint un peu les sujets que j'aborde et un peu la manière dont j'ai de tisser des liens dans la vie normale avec les gens que je fréquente. C'est-à-dire que on a tous plein de liens les uns avec les autres, et c'est un peu des énergies que tu peux partager avec les gens, et t'en fais ce que t'en veux. Tu peux créer plein de choses belles si t'as envie, c'est libre à toi. Et c'est un peu ces liens que tu tisses les uns avec les autres. Et c'est un peu aussi, tu vois, quand t'es dans ton lit le soir, que tu penses à tout ce que t'as vécu et des moments avec tes amis, etc., ou ta famille, ou ta chérie, ou qui tu veux. En fait, le visage de la personne, tu le vois pas bien dans ta mémoire. Tu vois des espèces de fils de lumière qui passent comme ça. C'est un peu ça aussi.
Ah, ok. Donc c'est filmer l'idée derrière, derrière les personnes.
Ouais.
Un petit peu. C'est très joli. Ouais. Dans là, au vernissage, on va retrouver à peu près combien d'œuvres, comment tu les as choisies, parce que je suppose que t'as pas exposé.
C'est une bonne
la
question.
Totalité de tout ce que tu as fait dans ta vie.
Ah non, pas du tout. Voilà. Je présente 20 pièces qui sont nouvelles, d'une série que j'ai créée exprès pour pour l'événement. Et j'avais envie de faire quelque chose de nouveau déjà. Et je me retrouve avec Arnaud, donc son nom de scène Nola, qui est avec moi là, et a visité son studio il y a quelques mois, et j'étais pas loin de choisir mon sujet, mais j'étais pas encore sûr de moi. Et puis donc on se pose dans son studio et on discute de qu'est-ce que lui va faire, comment est-ce qu'il construit sa musique, comment il va mixer ce soir-là. Et t'en parleras mieux que moi sur ta façon de construire ta musique, mais il y avait cette notion de que la musique a pas de frontières.
Ok.
Moi j'avais déjà envie de parler de la danse. J'ai pu rebondir là-dessus. Ça a plutôt conforté mon idée, parce que j'avais déjà réalisé des dessins sur ce sujet-là, de parler de la danse. Et là, le thématique de l'exposition, c'est les danses, on va dire populaires et contestataires à travers le temps, et surtout à travers les frontières. Voilà. Et ça crée un espèce d'écho avec ces musiques qui sont transfrontalières et qui peuvent être propres à des combats sociaux. Mais ça, je t'envoie la balle.
Oui, une des musiques qui me touche beaucoup, c'est la musique soul, le gospel, enfin le blues à la base. Et après, donc tout ça, c'est déjà une musique qui vient de revendications, enfin qui est là pour exprimer des frustrations, des souffrances, se libérer. Et après, dans plein de pays, hein, toute la musique en Afrique, toutes les musiques du monde, en fait, elles m'intéressent, donc elles alimentent ma composition. Et dans les mix aussi, j'essaye aussi de raconter des histoires. Voilà.
Et alors, comment tu l'as construit, Nola, ta partie à toi pour le vernissage? Parce que c'est particulier, je trouve, pour un musicien de jouer pour en fonction aussi d'un artiste graphique, de danseuses qui seront là. Comment est-ce que tu as construit ce que tu nous prépares?
Après, j'ai un peu en tête cette idée de voyage, et en fonction de la danse aussi, sur le souvenir, qu'est-ce que ça peut m'évoquer, tout ça, quoi, je sais pas.
Quand t'as rencontré Malincola, du coup, j'ai appris que c'était en tant que photographe et vidéaste. Quel est ton regard, du coup, sur son travail, toi qui n'es pas que musicien, qui ne travaille pas qu'avec le médium sonore?
Moi, déjà, mon travail photographique que j'ai repris depuis pas très longtemps, en fait, parce que je l'avais arrêté pour faire de la musique pendant plutôt 15 ou 20 ans même. C'est un regard engagé, et donc je me retrouve dans son regard aussi, parce que son travail, il est très engagé, sensible, mais sensible à ce qui se passe autour de nous, au monde. Et voilà. Et donc je me retrouve à travers ça aussi, et dans la photographie que je fais, c'est ce travail-là aussi.
Maintenant, comment est-ce que, et d'ailleurs c'est une question que je peux vous poser à tous les deux, j'ai envie de savoir comment est-ce que votre sensibilité, je veux dire politique, révolutionnaire, elle a éclose comment, elle est née comment dans votre vie? Comment elle s'est faite, cette prise de conscience-là?
Moi, très jeune, j'étais toujours révolté, en fait. Je crois que ça commence tôt, hein, ce genre de truc. Déjà à l'école, j'étais quand même un cas à part, quoi. Ça a été très compliqué, moi, ma scolarité. Et voilà. Et après, mon histoire personnelle aussi. Enfin, je crois que c'est un peu tout.
On a tous une âme un peu rebelle, quoi.
Voilà.
C'est pour ça qu'on vit à Marseille, d'ailleurs.
Oui, et puis oui, en photo, j'ai commencé dans les quartiers nord à faire des photos en 94. Même, j'étais aussi dans le... même avant de faire les photos avec les jeunes à la Savine ou à Bassins, j'avais commencé à faire des photos avec les street artistes, justement les suivant dans les trains la nuit avec Abel. Donc j'avais commencé des séries de photos comme ça, en fait. Voilà, dans le street art, justement. Je sais pas si je t'en avais parlé de ça.
Non, non. Je savais pas.
Ouais, mais j'avais commencé comme ça, donc je passais mes nuits dans les gares SNCF à me faire poursuivre par les agents, à rester accroché sur les barbelés. J'ai quelques souvenirs un peu douloureux, quoi. Et voilà.
Et toi, même. Et toi, du coup, comment ça s'est passé, cette espèce
de
réveil?
Moi, j'ai grandi dans un univers de assez militant, déjà autour de moi en tant que famille. Et puis, j'avais toute une bande de potes avec qui on remettait beaucoup en question le monde qui nous entoure quand on était ados. Et après, de là à en faire quelque chose de manière, on va dire, publique, de l'exprimer publiquement, il y a aussi l'idée de... ça vient aussi du moment où tu observes les autres réagir face à tout un tas de choses qui se passent et te rendre compte qu'il y a plein de gens qui se laissent pas faire et qui ont des idées qu'on partage et que déjà on n'a pas forcément le moyen de l'exprimer publiquement tous, parce que quand tu discutes avec tes potes, il y en a plein qui ont des avis sociaux, politiques, philosophiques hyper intéressants, mais c'est pas ce qu'on va entendre dans les médias principalement. Donc de pouvoir l'exprimer dans la rue, j'exprime pas que mes idées, j'exprime les idées de bah, plusieurs générations qui se chevauchent là et qu'on partage, et que certains expriment dans la littérature, d'autres dans la musique justement, et d'autres dans la danse, et moi je l'exprime par un univers visuel et qui est diffusé dans l'espace public, donc c'est pratique en termes de diffusion. Mais ouais, c'est aussi se faire écho de ce que j'entends, ce que je vois, ce que je vis, ce que les autres vivent, ressentent et ont envie d'exprimer.
Tu parlais juste à l'instant de générations qui se chevauchent. Mm-hmm. Est-ce que je sais pas comment poser cette question, mais en gros, comment est-ce que tu vois des choses qui ont évolué dans l'art du graphe sur toutes ces générations qui se chevauchent, ou dans la façon de s'exprimer, de se battre?
Tu parles du mouvement art urbain, graffiti, etc.
Par exemple, ouais, bien sûr.
Alors habituellement, je me réserve bien le fait d'émettre des avis sur ce mouvement.
Ah ben, on peut.
C'est un mouvement qui est complexe, mais qui est plein de branches différentes, et certes qui évolue pas de la même manière dans chaque endroit. Donc c'est très très complexe au final.
C'est très lié au territoire, en fait.
D'une manière générale, plutôt, je dirais que oui, je vois plutôt le monde autour de nous qui évolue, et sans parler d'univers de peinture ou de graffiti, que bah, on lit tous les médias si on a envie, en tout cas, et on suit ce qui se passe autour de nous, donc. Ouais, les rêves qu'on avait il y a 30 ans et de voir où on est maintenant, il y a des choses qui ont super bien évolué et d'autres non. Donc je vois que les gens sont toujours réagissent quand même à ce qui se passe, même si des fois on est un peu pieds et mains liés, mais les gens sont pas d'une manière générale indifférents, restent combatifs, je trouve, d'une manière générale.
Ouais, donc je pensais juste aux œuvres qui étaient faites par exemple pendant la gouvernance de Pinochet au Chili. Il y avait des muralistes qui ont fait des très belles œuvres. À Miami aussi, il y a eu pas mal de peintures, de muralistes cubains qui ont fait des choses aussi dans les débuts des années 70. Il y a un film de Agnès Varda qui s'appelle Murmure, qui est très intéressant. Il y a de très belles œuvres. Voilà, donc c'est quand même un art engagé, hein, le fait d'être dans la rue et de peindre c'est l'expression pure, quoi. Enfin, y a pas
oui,
plus...
puis c'est, dans le cas de One Cloud, c'est pas discret. D'ailleurs, c'est la question que je voulais te poser. Comment est-ce que t'en es venu à faire de l'art gigantesque? C'est particulier comme démarche. En plus, c'est faut des compétences, du matos et
ouais,
tout pour
se
pour...
bah ouais, pour... Et ouais. Dangereux même.
Non, c'est pas dangereux.
Un peu quand même. Enfin, quand t'es sur un immeuble de 8 mètres.
Non, c'est pas dangereux, mais j'ai des gens qui m'aident, qui me sécurisent.
C'est dangereux surtout sur les voies ferrées, les gravures.
Ouais,
il y a
voilà,
pas mal de morts,
ça,
par
c'est dangereux. Tous les gens qui montent sur les toits, les gouttières, etc. Là, c'est dangereux. Ouais. Prennent des risques beaucoup plus que moi, qui suis accroché et sécurisé par des cordes ou sur une nacelle. Mais ouais, la taille des œuvres, c'est parce que ça me fait marrer et que j'aime bien ne pas, j'aime bien les défis, j'aime bien faire tout le temps des nouvelles choses. Donc c'est vrai que tu fais un petit moyen, un grand format, et après à un moment j'ai allié ça avec une autre passion qui est l'escalade, de pouvoir faire ça sur des cordes. Et j'ai rencontré des cordistes qui m'ont formé, je me suis formé. Il y a le côté où il y a le côté du défi de faire quelque chose. Après, que ce soit grand, bon, il y en a qui sont vraiment visibles. Celle qui est sur la corniche, effectivement, c'est un emplacement quand même très particulier et très visible. Mmh. La fresque que j'ai fait quand on s'est rencontré, Arnaud, on était à Félix Piat, il y a beaucoup moins de gens qui l'ont vue, elle est pourtant elle est beaucoup plus grande.
Ouais, et du vu du ciel, elle est impressionnante.
Ouais. Ah ouais, et en fait, c'est juste que c'est un quartier où tu la vois moins bien. Et
c'est au niveau du bâtiment de Orange, c'est ça?
Ouais.
C'est sur... Oui,
ouais.
Mais je me rappelle de l'avoir vu, d'avoir vu cette peinture être en train de faire, d'être faite en live, quoi. Donc,
ouais.
Du coup, je pense que je t'ai vu, je suis passée en voiture.
C'est dingue.
Magnifique, ouais, c'est dingue. Du coup, ça m'a fait percuter. Je me suis dit, ah ouais, d'accord.
C'était
lui. Une histoire particulière aussi sur cette fresque.
Ouais.
Sur le personnage qu'elle représente.
Mais... Ouais, c'est une réfugiée ouïghour, issue des camps de concentration chinois. Et du coup, il y avait un message politique fort. Et celle-là, elle est quand même moins vue. Mais c'est vrai qu'aussi, les fresques, elles existent sur les réseaux sociaux. Donc, oui. L'art urbain, moi, j'ai vu des milliers de fresques dans ma vie sur les réseaux sociaux. En réel, j'en ai vu, je sais pas, 1%, même pas. Mm-hmm. Donc, le fait qu'elle soit grande, moyenne, petite, au final, ça change pas. Parce que l'endroit où elle est le plus vue, c'est sur les réseaux sociaux. Donc... Non, le fait que ce soit grand, c'est plus parce que ça me fait triper, en vrai.
Après, l'endroit, il est quand même... Parce que juste en face, il y a le bâtiment, justement, où il y a pas mal d'hommes immigrés qui vivent...
Oui, c'est des foyers, non?
Oui, c'est des foyers, exactement. Du coup, en plus, la place est assez...
Félix Piat,
ouais.
Ouais, ouais, ouais. Symboliquement,
trouve,
ouais, c'était assez fort, ouais.
C'est vrai qu'il y a une belle symbolique.
Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que tu pars du moment où tu dis « Ok, je vais faire le portrait de cette personne » et le moment où tu l'achèves complètement, c'est quoi toutes les étapes pour toi de travail?
Alors des fois c'est très 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 long. Parce que cette fameuse fresque sur la corniche, pour parler de celle-là, j'étais presque aussi content d'avoir réussi à la faire que de la faire.
Oh ouais.
Tellement c'était long, donc c'est un projet que j'ai imaginé moi déjà. Quand j'ai vu que la mairie appliquait la loi sur les publicités en front de mer et aux abords des monuments... classé, parce qu'il y a la porte d'Orient là juste à côté, en fait c'est un bâtiment classé, il peut pas y avoir de publicité en face.
D'accord.
Donc ils ont demandé à JC Déco de retirer le panneau. Moi quand j'ai vu ça, j'étais toqué à la porte de la copro avec mon fils dans les mains au culot, quoi. Et on m'a donné le contact d'une femme qui est absolument formidable, qui s'appelle Annie France, qui m'a beaucoup aidé à convaincre les autres membres de la copropriété de faire une fresque. Et elle était déjà donatrice de SOS Méditerranée. Moi, je les ai appelés, on avait déjà fait un petit projet ensemble. Je leur ai dit, ah, ça vous dit pas, je fais une fresque sur ce mur. Tu m'étonnes, ils n'étaient pas contre. Et une fois que tout le monde s'était mis d'accord entre la CoPro et SOS Méditerranée, vu l'emplacement, j'avais besoin quand même des autorisations. Et là, ça a été très, très, très long. Il y a eu beaucoup d'allers-retours sur qui devait donner l'autorisation ou pas, pourquoi, ceci, cela, avoir les architectes, bâtiments de France.
Ça a pris une année, pratiquement.
J'ai mis un an et demi à monter le projet.
Ouais.
Et puis trouver un financeur, parce que j'ai trouvé un financeur privé, parce que la mairie ne voulait pas donner d'argent, et SOS Méditerranée, dans leur charte, ne peuvent pas en donner, pour autre chose que le sauvetage en mer. Et c'est le fabricant de matériel d'escalade, Petzl, qui a financé en mettant à disposition des cordistes et qui m'a donné une petite somme d'argent. et qui a permis de que ce projet se fasse aussi. Donc c'était beaucoup d'aller-retour entre plein de gens très loin. À un moment donné, je croyais que ça se ferait jamais. Donc et monter un projet, des fois, c'est très long.
C'est l'œuvre qui t'a mis le plus de temps à le faire, ou ça arrive que ça prenne un an, c'est assez courant?
Ouais, c'est assez courant que ça prenne plusieurs mois.
Ah waouh. Ah waouh. Ok. Ouais. Ok. Et depuis le début de l'émission, il me semble, enfin, je crois comprendre que du coup, tu n'es pas seul et que tu as pas mal de gens qui t'entourent.
Ouais.
Et est-ce que tu peux nous présenter un peu ton équipe?
Alors, elle varie suivant les projets. Et par exemple, là, sur le projet qu'on avait fait avec le MoMA, Arnaud était là en tant que photographe et vidéaste, parce que tu avais monté toute une vidéo qui était très belle.
Ouais.
Sur le projet. Et y avait des journalistes qui étaient là. Il y avait Aurélie Masset, qui est donc la personne qui s'occupe du MoMA. Donc Aurélie, elle assurait toute la coordination du projet avec Orange, le bâtiment d'Orange, et Arnaud. Et il y avait François Ranis, qui était bénévole sur le projet et qui gérait une boîte de cordistes, donc il m'avait envoyé deux cordistes avec moi. Donc j'avais deux cordistes en plus.
Mais les cordistes, c'est des... Enfin, je veux dire, ils t'aident à quel niveau? Parce qu'ils vont pas peindre à ta place. Tu vois ce que je veux dire?
Ou alors, s'il y a déjà, moi, j'ai pas le niveau pour installer les systèmes de cordes sur le toit, mais okay. Là, sur la fresque de la Uyghur, si les cordistes, je les ai fait peindre, ouais.
Ok.
Ouais, ils avaient jamais peint la bombe, c'était comme des dingues. C'était assez cool, ouais.
Est-ce que sur les années, est-ce que ça devient plus compliqué d'avoir des autorisations est-ce que tu te fais plus emmerder avec le temps ou moins, ou est-ce qu'il y a une évolution là-dessus ou pas trop?
Bah, plus ou moins. Disons que demander de l'autorisation, c'est toujours chiant. Donc si je peux ne pas la demander, je la demande pas. Après, sur un truc comme la corniche, c'était compliqué. Sur Orange, avec le MoMA, c'était compliqué de pas avoir l'autorisation aussi. Et c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais disons que non, ça change pas. Les règles sont toujours les mêmes.
Est-ce que tu as des retours un peu sur tes fresques? Est-ce que les tendances de quel, waouh, 1, 2, 3 pouf pouf, de quelle façon t'entends les gens revenir vers toi pour te parler de ton travail?
Bah, c'est les copains autour de moi quand je peins qui me donnent les retours des gens. Et parce que moi je suis là-haut, j'entends rien. Et c'est les autres qui me racontent les histoires que les gens racontent, donc c'est assez rigolo.
Comment tu choisis tes lieux?
Il faut un mur, il faut de la place. Ouais. Et souvent, j'essaye qu'il y ait quand même un écho entre le lieu où je fais quelque chose et le sujet de ma fresque, si possible. Là, par exemple, la femme qui regarde au loin la mer et qui est en train de scruter l'horizon pour voir s'il n'y a pas des embarcations en danger, le lieu, il est face à la mer, donc ça marchait bien. Et c'est des fois l'inverse, c'est-à-dire qu'on me propose un mur avec un lieu et je raconte une histoire en fonction de ce qui se passe à cet endroit-là.
Ouais, ok. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport à Marseille? Est-ce que tu es là par hasard?
Non, je suis pas là par hasard. Je suis venu m'installer ici après avoir vécu un peu à l'étranger. Et moi, je voulais vivre en France. C'était le pays qui, je trouvais, ressemblait plus au reste du monde. Un peu bordélique, un peu sale par endroit, mais riche par endroit, mais propre par endroit, et où se mélange tout un tas de gens. Et j'aimais bien ce joyeux bordel à Marseille, et c'est vrai que c'était un endroit parfait pour aussi pouvoir faire de l'art urbain, parce qu'il est un peu sauvage quand même.
C'est très vrai. si on devait se souvenir d'une seule de tes œuvres, ce serait laquelle qui te ferait plaisir?
C'est une bonne question, ça. Tic-tac, je les repasse en revue dans ma tête. Je crois que celle dont j'ai parlé tout à l'heure avec le couple, l'espèce d'histoire un peu Roméo et Juliette moderne, des temps modernes, je l'aime beaucoup. Ouais.
C'est parce qu'il y a c'est à la fois hyper politique et à la fois c'est
hyper romantique.
Il y a que de la, ouais, il y a que
ouais,
de l'amour.
Et puis j'ai été mis en contact. Les filles m'ont contacté après que j'ai fait cette fresque et on a beaucoup échangé aussi sur les réseaux ensemble. Et il y avait une espèce de boucle qui se bouclait entre la réalité et le fait qu'elle soit remise dans l'espace public et qu'elle me contacte et qu'on reste en lien. Il y avait un Il y avait un truc un peu magique.
Elles ont pu la voir en vrai ou pas?
Non, elles ne l'ont pas vue en vrai.
Déjà, elles sont en train de se réparer tranquillement en Espagne. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime souvent mettre en valeur. C'est que je trouve qu'on traite beaucoup les révolutionnaires d'agressifs, alors que ce sont des amoureux, parce que je pense vraiment qu'il faut être amoureux des humains, quoi, pour passer toute sa vie à dire ça, c'est pas juste, cette personne-là, elle fait le bon truc. Enfin, il y a beaucoup d'amour, en fait, dans l'acte militant. Et d'ailleurs, tu parlais tout du coup forcément de cette œuvre. Est-ce que. Tu as l'air d'être assez touché par rapport aux questions LGBTI+. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été dans ta vie, ou est-ce que c'est une prise de conscience qui est arrivée à un moment donné?
Ouais, je pense que ça a toujours été dans ma vie, le fait de juste voir un copain ou une copine se faire emmerder pour des choix personnels qui devraient regarder personne. Ça m'a toujours outré. Il n'y a pas eu de prise de conscience à un moment donné. Plus âgé, j'ai toujours ressenti ça et ça a toujours été là avec moi.
C'est quoi ton œuvre qui est la plus intime, puisque on va parler des SOS Méditerranée, des Ouïghours, mais
j'en ai
laquelle
fait une
est la plus intime?
Assez intime, c'était à l'Auberge Marseillaise, qui est un lieu d'accueil pour les femmes et les trans qui ont subi des violences. Qui peuvent être accueillis avec leurs enfants si elles ont besoin. Et c'est un lieu de refuge. Et cette fresque, elle est du coup pas dans l'espace public. Elle donne sur le lieu de vie à l'intérieur, dans la cour. Et j'ai représenté une mère et une fille. Et la fille, elle chuchote quelque chose à l'oreille de sa mère qui sourit, mais du coup, on sait pas quoi. Donc tu es libre de l'interpréter comme tu as envie.
Je trouve ça très beau de faire une fresque pour un lieu, du coup, et pour ces personnes-là. Et puis le fait de remettre de la maternité là-dedans, quand on sait qu'on vient d'une communauté où beaucoup sont littéralement virés de leur famille, voire on subit des violences de la part des familles, dès qu'on leur chuchote à l'oreille qu'on est bisexuel ou homo ou trans. Donc c'est une très belle démarche. J'aimerais, on arrive bientôt en fin d'émission, j'aimerais qu'on écoute cette fois-ci en entier le fameux Get Misunderstood dont on a écouté le début, pour pouvoir discuter après avec Nola de sa musique. Vous êtes sur Radio Galère 88.4 à l'émission Kixa et vous allez écouter Get Misunderstood des Troublemakers.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas « nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution ». Ils disaient « toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable ». La révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'ils n'avaient pas faite, et qu'ils n'auraient pas faite, ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'ils la voulaient. Je vois quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37.
Glorieux, c'est pas ça. J'avais plus rien.
Si. Parce qu'il y aura toujours des fous.
Thank you.
Vous êtes de retour dans l'émission Kixa, toujours sur Radio Galère et toujours avec l'artiste Manclois, Nola des Troublemakers et Nancy de la Sucrerie qui organise ensemble le vernissage de Manclois. Ça va toujours ?
Toujours.
Oui, très bien.
Donc Nola, j'aimerais te poser une question. Quelle était la première claque musicale que tu as prise dans ta vie ?
C'est une vraie question.
C'est dur, hein.
J'essaie de me remettre il y a longtemps, alors très très longtemps. Oh, je pense que ça a dû être la musique classique, alors, quand j'étais tout petit. Mozart, sûrement.
Ok, ah, ok. C'est rigolo pour quelqu'un qui
bah, parce que j'ai commencé le classique aussi.
Ah, je dirais en
À 6 ans, ouais, j'ai commencé, ouais.
T'as fait quoi ?
De la guitare pendant 7 ans.
Ok.
Mais oui, enfin, après, je jouais pas du Mozart à la guitare, hein, mais plutôt des musiques espagnoles. Mais ouais, je crois que c'est la musique de Narcisse Ollier, PS. Concerto d'Aranjuez, par exemple. C'est un truc qui m'a marqué enfant. Parce que après, je l'avais redécouvert. Parce que. Je l'avais écouté par Narcisse Oliépès. Okay. C'est quand même une œuvre très connue. Et après, je l'avais redécouverte par Miles Davis, parce qu'il l'avait repris en jazz. Concerto d'Aranjuez, voilà, qui est un peu.
Ça m'amuse beaucoup les DJ parce que à la fois vous êtes des compositeurs comme n'importe quel autre musicien, mais vous avez particulièrement vous ce truc, vous êtes des collecteurs, des petits rats de bibliothèque, vous passez votre temps à collecter.
Ah oui, bah, ça Diggers, c'est un truc qui fait partie de ma vie, quoi. C'est-à-dire que j'ai collecté des disques depuis très longtemps, pendant des années, quoi. C'était mon obsession. Moi, j'en achète encore, hein,
mais t'as la
j'ai
place,
plus de place parce que c'est stocké dans un hangar, parce que j'en ai trop.
Oh, wow.
Mais j'ai passé des années à voyager dans les tournées, à jeter mes habits pour remplir les valises de disques.
Oh, wow. Oh, wow.
C'était mon obsession de connaître tous les disquaires possibles dans chaque ville où j'allais ou en Afrique. Je me retrouvais dans des trucs pour essayer de diguer, ouais, de retrouver des perles rares, quoi.
Les studios de Radio Galère sont à la Friche, donc je suis très contente de te recevoir aussi dans ces lieux-là, puisque tu m'as dit que tu as commencé à la Friche. Est-ce que tu peux m'en parler un peu ?
Oui, alors j'étais pris en résidence en fait en 98-99 par l'AMI, et donc j'étais venu ici avec des maquettes, des maquettes de ma musique, et Fred Berthet qui animait les ateliers, les cours pour l'AMI, avait été intéressé par mes maquettes, donc il en avait parlé au directeur, à Ferdinand Richat. Et donc j'ai eu un rendez-vous avec Ferdinand et il m'a dit, écoute, ça nous intéresse de te prendre en résidence pour que tu puisses mener un projet artistique, puisque voilà. Et donc ça a été le cas. Et puis au bout d'un an et demi, on a sorti un album, et après qui a eu voilà, une histoire un peu partout dans le monde.
Donc,
c'est grâce à l'AMI et à la Friche que j'ai pu faire ça. Mais j'avais même pas, moi je faisais de la photo, j'étais plus dans une idée d'être photographe humaniste, enfin dans cette veine là quoi. Mais la musique, j'en faisais toujours. Enfin, je mélangeais avec l'électronique, les samples, voilà, et la musique que je composais. Mais je pensais pas que j'allais faire une carrière internationale un an et demi après, quoi. Me retrouver à signer à Chicago, et après à jouer aux États-Unis de partout, et après signer chez Blue Note. C'était inenvisageable.
C'est une très belle maison.
Pour des Marseillais, quoi.
Ouais, c'est clair. Alors, j'ai un collègue de la radio qui s'est glissé dans la cabine pendant que tu te parlais et qui m'a donné un papier. Et il m'a écrit « Sample de la zik que vous avez passé, c'est du boom bap cool. » Ventre.
Et ça lui fait penser donc à un morceau qui s'appelle « Ventreville » de Hakim Norbert.
Et Vidia 7FA7.
Qui qu'il y a sur YouTube. Voilà, ça lui a fait, ça lui a fait penser à. Tu connais ou pas?
Non. Mais peut-être que si, j'ai... enfin le nom, non, mais peut-être que j'ai entendu hein, déjà, mais.
Peut-être à aller écouter justement
ouais,
et découvrir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date?
La date de l'événement, oui. C'est vendredi 23 mai. Donc ça va être une soirée donc immersive qui va commencer à 18h30 où il y aura le vernissage de Mankwa, l'exposition, un live painting qui sera accompagné de Nola de Troublemakers avec aussi une prestation de pole dance de Mimo et quatre DJ sets de DJ Gamar, de il y aura aussi de Nola, de Sarah Zinger et Obu Noise. Et ça sera payant à partir de 21h, 10 euros en pré-vente.
Donc, vous pouvez d'ailleurs, ce qu'on entend là en fond pendant qu'on parle, c'est justement Ventreville de Hakim Norbert et Vidya 7FA7, pour ceux qui s'étaient intéressés. Et donc, vous pouvez aller, je vous encourage à aller suivre ce que fait la sucrerie, puisque Nancy, tu as tout un travail autour du pluridisciplinaire. Et donc, c'est pas anodin qu'on te retrouve à organiser un événement. On va avoir un peintre graffeur, des DJ, des danseuses aussi de pole dance. Donc si vous aimez les endroits et les artistes pluridisciplinaires, vous pouvez continuer à suivre le travail de la sucrerie et de la mûrisserie qui sera le lieu sur le cours Julien. Et pour finir, vous pouvez aussi retrouver le travail de Nola en tant que photographe. Donc tu fais une expo à la Frie justement dans la salle, c'est quoi? C'est la salle des machines, la salle des possibles, je sais pas.
Oui, c'est ça. Enfin, je sais pas, ouais, elle a deux noms, je crois, salle des machines, salle des possibles.
C'est dans quel
quand?
Pardon.
Ça commence aujourd'hui, le vernissage est à 17h jusqu'à 22h et ça dure jusqu'au 15 juin. Il y a la photographe Spiker Mayer qui fait une série aussi, Johan Lamoulaire, Rito, un artiste colombien qui vient, qui vient spécialement pendant deux mois en France et qui va faire une fresque à Marseille dans les quartiers nord aussi. Et qui expose voilà son travail qui fait avec les indigènes en Colombie et il y a deux jeunes talents qui ont gagné un concours qui a été organisé par le Meta 2, le MoMA, qui expose deux photos et voilà et mon travail. Et ce soir il y aura un peu de musique, voilà, une sélection musicale de hip hop old school et aussi de musique plus funky, voilà.
Et donc allez voir l'expo puisque Nola, vous ne pourrez pas le retrouver sur Instagram.
Et Yassi aussi, Zandi, qui est
un réel humain, voilà.
Voilà une chanteuse américaine aussi, Yassi, qui fera une intervention aussi. Voilà, pardon.
Oh, c'est si doux. Vous pouvez par contre retrouver la sucrerie sur Instagram. Donc je crois qu'il y a une histoire de trait du bas dans le nom.
Ouais, underscore.
Underscore. Ok. Et Mankwa, M-A-H-N, plus loin, K-L-O-I-X. Voilà, à vendredi prochain à la mûrisserie et sur Radio Galère, puisque nous allons diffuser le DJ, la partie musicale de la soirée, en direct à la radio. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venu
accepter
l'incitation. Et on vous laisse sur Radio Galère finir cette émission avec la chanson Street Preacher des Troublemakers, que vous pourrez retrouver sur Internet aussi. Bonne journée, au revoir.
Okay, everybody's running around here wondering when the bombs are going to fall, and the fact of the matter is that the bombs have already fallen. People are running around here dwelling in the 11th hour concept and it's raw afternoon. I mean, our thought processes have been totally subverted by the concepts that these people lay before us, by the church, the schools, and the media right now. I mean, it's almost impossible to find someone out here that can think outside of their own caste system right now. I mean, look at this man across the street in the tie. This is man, and he's actually suffering from oxygen deprivation. He's brain dead. Can I throw you a shirt? You know, I'm